Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 158. Mon nom est Paul Andriot et je suis avec mon collègue...
Éric Fréchette.
Et nous avons la chance cette semaine d'avoir un invité spécial avec nous, Olivier Bouchard. Bonjour.
Bonjour.
Olivier, bien sûr, qui est critique pour nous à Point de vue, mais qui écrit également pour Cinéphilique et à l'occasion pour d'autres sites web. Yep. Ça va bien, Olivier?
Ça va bien, vous?
Ah oh, oui!
Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé sur le podcast et avec Pascal qui est toujours dans le Nord. Quoi de mieux que d'en profiter d'avoir des super critiques avec nous, n'est-ce pas? Rapidement, parce qu'on a vu plein de choses et plein de trucs différents cette semaine, et plein en fait de médias différents. Donc, le podcast 100% cinéma à Montréal, c'est de moins en moins vrai. Mais rapidement, j'aimerais ça parler d'un podcast, parce que j'ai l'impression que ça peut intéresser les auditeurs s'ils nous écoutent en ce moment. Ça fait partie, en fait, du réseau américain Gimlet, qui, dans le fond, une espèce d'entreprise de podcast de vraiment de haute production, de haute qualité, fondée en 2014 et qui propose de plus en plus des podcasts vraiment intéressants. Et moi, j'écoutais le podcast, donc leur premier podcast qui s'appelle Startup, qui au début, en fait, racontent leur propre histoire. Donc, comment une entreprise essaie de monter des millions pour devenir une entreprise, un empire de podcast. Et ça, dans le fond, sont rendus à la 5e saison. Mais particulièrement, moi, ce qui m'a accroché, c'est la saison 4. Il y a toute une partie de la saison 4 où ils vont donc faire l'histoire de Dove Charney. Si le nom vous dit rien, c'est sûr que vous connaissez, en fait. C'est ce Montréalais qui a fondé l'empire American Apparel, et qui, depuis, a été destitué, il y a eu plusieurs scandales, etc. Et là, maintenant, en fait, le podcast est enregistré en 2016, et on le suit alors qu'il essaie de monter un nouvel empire de la mode qui s'appelle LA Apparel, donc Los Angeles Apparel. Et vraiment, en fait, ce qui fait la force de ce podcast-là, c'est vraiment qu'ils ont réussi à... Ben, tu sais, ils ont été en entrevue, ils ont passé des jours et des jours avec Dove Charney. Ils ont obtenu aussi des entrevues et des commentaires d'employés, de sa mère, de contacts de l'industrie, des relations professionnelles. Et ça donne vraiment un portrait assez hallucinant, tu sais, d'un homme qui, à son sommet, menait un empire de comme qui valait 5 milliards par année. Et puis qui a vraiment touché le fond aussi. Donc, tu sais, c'est quand même tout un personnage, Dove Charney. Donc, c'est sûr que... C'est un peu comme, tu sais, des fois, on écoute des trucs comme The Jinx ou O.J. Made in America. Puis, tu sais, c'est au-delà de comme tout l'aspect légal pis tout ça, c'est aussi comme c'est des personnalités fortes en fait. C'est ça qui fait que ces séries-là marchent le plus souvent du temps. C'est qu'à leur centre, t'as vraiment une personnalité qui est charismatique. Bon, évidemment, là, j'essaie pas de dire que Dove Charney est un meurtrier, là. Parce que là, j'ai comme fait une comparaison avec deux autres cas, mais.
Non, mais il a quand même enchaîné les scandales, là, tu sais. Dans les médias, c'était assez dégueulasse là, ce qu'il se disait sur lui, là. En fait, ça m'intrigue beaucoup parce que, tu sais, c'est de classer les médias, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est assez curieux, là, mais je me souviens que c'était genre un scandale après l'autre, là, ouais. Avec lui, là, avec ses shootings photos qui étaient, où il faisait des attouchements, pis c'était comme, c'était weird, là, c'était vraiment weird ouais. Vers la fin, là.
Ben, tout ça, c'est tout abordé, en fait, puis souvent, c'est que lui, il avait vraiment le contrôle 100% sur la campagne publicitaire, puis c'était lui, souvent, en fait, qui prenait les photos. Les fameuses photos controversées. Puis justement, comme dans l'épisode 4, en fait, de cette saison-là, en fait, c'est-à-dire la partie 4 de cette saga-là, parce que la saison couvre aussi d'autres entreprises, à un moment donné, il dit, tu sais, ils sont dans sa maison d'enfance, puis là, il montre des photos, des souvenirs, des trucs comme ça. Puis là, à un moment donné, il dit, je suis un peu fatigué, je vais aller m'allonger, je pense. Puis là, comme il dit, tu peux rester ici si tu veux, ou tu peux venir avec moi, tu sais, puis il rit un peu. Mais comme là, la productrice du podcast est comme « Non, c'est beau, je vais attendre ici, tu sais. » Puis là, il est comme « Est-ce que c'était juste une joke ou vraiment il vient de m'inviter à comme aller coucher avec lui ou, tu sais. » Puis c'est tout le temps ça. Puis lui, il est très, très ouvert sur la sexualité puis à quel point, tu sais, qu'il y a eu des relations avec des dizaines et des dizaines d'employés. Mais ça, il se le cache pas. C'est juste qu'à chaque fois, il dit « C'était consentant, puis tout ça. » Puis en tout cas, c'est vraiment fascinant comme podcast. Puis moi, je connaissais quand même très peu ça, au-delà de comme ce qu'on en entendait parler un peu. C'est vraiment fascinant, en fait, comme série, donc vous irez voir ça. Sinon, l'autre gros événement qu'on voudrait parler absolument, c'est évidemment le retour de Twin Peaks. qu'on a discuté beaucoup dans les derniers podcasts, qu'on avait bien hâte. Est-ce que toi, Olivier, tu l'as écouté, Twin Peaks, ou...
J'ai vu les deux vieilles saisons. J'ai même pas vu le film, en fait. Fait que je voulais me taper le film, puis je vais attendre que
Ok.
les huit... Il y a 18 épisodes maintenant, ou la
Ouais, c'est
nouvelle...
ça, 18, ouais.
Ouais, je vais attendre que les 18 épisodes soient tous disponibles, parce que ça m'écœure d'avoir à attendre. Je suis pas capable de regarder des séries pendant qu'elles sont en cours. Faut tout le temps que j'attende qu'elles soient terminées, parce que je mange ça en 2 jours.
Moi aussi, je suis comme ça d'habitude, mais j'avoue que c'est là, pour la première fois, c'est ça, j'écoute la série au fur et à mesure, puis c'est le fun de faire partie un peu des discussions, puis d'aller voir sur Twitter, puis sur les forums, puis sur Reddit, les théories des fans, puis des trucs comme ça. Puis ce qui est le fun aussi d'une série comme Twin Peaks, c'est que dans un sens, j'ai l'impression que David Lynch puis Mark Frost, ils se foutent un peu de la gueule des gens qui essaient de comprendre puis d'expliquer ce qui se passait. Parce qu'il y a tellement d'indices, puis là, les gens, ils font des liens avec « Ah, ben là, il y a la... Rose bleue qui est apparue dans tel film, puis ah oui, la bague aussi qui était dans tel épisode, puis je suis convaincu que c'est juste là pour troller le monde, là, puis lui, il s'en fout complètement de comme.
Ouais,
J'ai tellement l'impression qu'il va avoir plein de choses, parce qu'il y a vraiment, il y a une galerie de personnages, et il y a, bon, il y a une histoire principale, plus ou moins, là, mais tu sais, il y a vraiment plein de personnages qui sont présentés, là, il y a 4 épisodes sur 18 qui sont diffusés. Tu sais, c'est vraiment, on suit plusieurs histoires parallèles, puis j'ai l'impression que la moitié seront pas résolues, là. Puis je pense que, tu sais, c'est un peu ça le but de... Tu sais, dans le sens que c'est beaucoup plus l'ambiance qui est importante, puis ce qu'on voit, tu sais, au moment par moment, que d'une grande histoire. Tu sais, c'est pas vraiment la destination, l'important.
Oh, c'est ça, les fan theories. Ben, les fan theories, souvent, ils essaient trop d'expliquer surréaliste de façon comme logique, en fait. Tandis que je pense qu'il faut que tu le prennes comme ça, puis que tu baignes dans l'ambiance, puis t'acceptes
C'est ça.
comme c'est présenté, là.
Comme souvent, important de savoir, tu sais la vraie clé pour comprendre Mulholland Drive, est-ce qu'il y en a une, tu sais. Après, c'est juste le film finalement. Mais puis ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour ceux qui ne savent pas encore s'ils veulent embarquer dans la nouvelle saison, moi je dirais que c'est pas vraiment nécessaire d'avoir vu le reste pour voir cette saison-là, parce que de toute façon, il y a beaucoup de nouveaux personnages. Tu sais, ça se passe 25 ans plus tard. Pour la première fois aussi, on va ailleurs que dans la simple ville de Twin Peaks, là. Donc,
Ah, oh,
c'est ça.
ouais, ok, je savais pas ça.
Ouais, bon ben, c'est comme un mini spoiler, I guess, là, mais c'est ça, on va au-delà
Oh!
de juste la ville.
Hey, gars, je pense que je vais quitter le podcast 10 minutes, parlez-en, puis je vais revenir après. Je suis comme en plein
Non,
milieu de
mais
la saison 2, tu sais, je suis comme...
Non, mais j'en parlerai vraiment pas plus que ça, en fait, c'est juste pour dire
Ouais.
que vous pouvez sauter, en fait, dans cette nouvelle saison-là. Puis même moi, qui ai vu pas mal tout ce qu'il y avait à voir jusqu'à présent, je ne sais pas plus qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que je suis aussi perdu que tout le monde, puis c'est sûr qu'il y a des personnages qui reviennent, mais, tu sais, vous n'avez pas vraiment besoin de tout savoir pour apprécier, je pense, la nouvelle série. Et moi, je pense honnêtement que cette série-là, à date, c'est vraiment meilleur que les deux anciennes saisons, voire que le film. Puis, ce qui est le fun, en fait, c'est que il essaye absolument pas, l'équipe de Mark Frost et de David Lynch, il n'essaie pas de rendre ça accessible pour les nouveaux auditeurs, ni pour les anciens. J'ai vraiment l'impression que c'est comme... Il y a notre collègue Sylvain Lavallée, là, qui écrit pour 24 images, il avait marqué sur Facebook que la nostalgie aura financé un film expérimental de 18 heures. Ben, je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils ont eu carte blanche, ça paraît... T'sais, puis tant mieux si avec les Netflix, l'Amazon et tout ça de ce monde, on est dans une époque où la TV se permet des projets aussi audacieux puis aussi décousus. Parce que je pense pas qu'à l'époque, tu sais, il y a une raison pourquoi ils ont été justement, t'sais, ça a été annulé à l'époque, c'est parce que c'était, bon, il y avait les ratings évidemment, mais t'sais, c'est aussi que c'était peut-être trop bizarre, c'était pas assez conventionnel. Mais là justement, c'est comme maintenant qu'il y a tellement de chaînes télé qui se battent pour les auditeurs. Ben, la seule façon finalement de s'en sortir, c'est de proposer des choses qui nulle part ailleurs, t'sais. Donc, c'est vraiment, en fait, un délice de voir une telle proposition à la télé. Et puis, ouais, donc, je vous le recommande. Puis, les gars, quand vous l'aurez commencé, on pourra en discuter ensemble.
Mais tu parlais de trolling là, mais c'est comme un truc aussi que J.J. Abrams faisait à travers ses séries, mais on dirait que c'était comme J.J. Abrams, c'est au niveau quasiment de l'insouciance là, parce que tu mets plein de plotlines qui t'es t'oublies des closés, mais David Lynch, ce qui est intelligent, c'est qu'il sait que il est conscient de ses plot holes, puis il va les souligner, puis il va comme jouer avec ça, puis il va jouer avec le public, puis c'est comme je sais pas, dans télé, c'est parce que tu peux mettre ça facilement, plugger ça dans des saisons pour tenir tes auditeurs vraiment intéressés, tu sais, Mais ouais, je pense que Twin Peaks, il reste dans la bonne lignée, là. Parce que, mettons un Lost, là. Lost, c'est comme l'affaire où il y a le moins fermé ever de porte, là. Il a juste ouvert plein de mystères, puis on dirait que c'est juste pour comme tenir le public en haleine, mais finalement, il y a pas de débouché à ça, là. Mais Lynch, t'as toute
Ouais.
l'intelligence en l'air de ça, c'est malade, là.
Ben, il faudrait que je voie Lost un jour. C'est sûr que ça m'intéresse quand même comme phénomène. Mais j'ai l'impression quand même que ça restait dans un cadre plus, t'sais, pseudo-réaliste, là, que tout était plus ou moins cohérent dans cet univers-là.
Pas vraiment, en fait.
Non,
Parce
ok.
que même jusqu'à la fin de la série, ils ont vraiment, tu sais, il y a une fin à la série, mais on dirait que c'est vraiment un truc simple pour juste comme closer parce que finalement, ils se sont tellement embourbés dans leurs mille et un mystères qu'ils n'ont pas été capables de résoudre, qu'ils ont mis une fin un peu plate, qui font comme, ouais, ben c'était ça finalement, tu sais, il n'y a pas de vraie finale, tu sais. Ben, il y a une finale, mais c'est juste, on dirait que c'est un truc juste pour rapper tout, puis bon, ben ça va régler tous les problèmes d'un coup, puis le monde va arrêter de chialer, là. Tandis que t'as un Lynch qui, lui, est vraiment carré, puis il sait de quoi il parle, puis quand il fait des plot holes, il est conscient, puis il le fait pour troller le public, là. Ouais.
Non, puis ce qui est le fun, c'est que d'une scène à l'autre, t'as absolument aucune idée où ça s'en va. Puis ça, c'est quand même assez hallucinant. Puis comme il y a vraiment carte blanche, c'est que tu sens que quand il y a une scène qui a le goût de prendre le temps, ben il va le prendre le temps, tu sais. Puis c'est ça qui est vraiment plaisant. Puis la seule affaire peut-être que j'y reproche, c'est que il aurait peut-être fallu qu'il y ait un éditeur un peu plus rigoureux. Puis il y a peut-être quelques moments, je trouve quand même que ça tourne en rond, même si c'est voulu, là. Mais ça, je peux pas vraiment parler en détail sans spoiler, fait que je veux pas trop en parler. Mais ça, je trouve que le rythme, des fois, pourrait être plus resserré. Et d'ailleurs, j'ai vraiment pas l'impression, c'est comme Olivier, tu disais que tu voulais attendre que tout soit disponible pour les écouter, mais j'ai tellement pas l'impression que c'est une série qui se binge-watch, là, entre guillemets, là. Parce que, justement, j'ai l'impression que c'est le genre de truc que tu veux prendre des pauses, puis tu sais, réfléchir, puis tu sais, parce que 18 heures, quand même, c'est avec tout un
Ouais,
marathon, là.
je sais
Mais...
pas, peut-être que je fais le mauvais choix, mais c'est parce que j'apprécie, tu sais, Rémi, tu compares à Lost. Un des problèmes, j'ai l'impression, avec une série comme Lost, en fait, c'est que c'est étalé sur plusieurs saisons, tandis que ça, t'as comme plus l'impression que c'est une œuvre complète sur 18 heures, là. Mais là, c'est sûr que personne n'a vu la fin, mais il y a comme tout tourné d'un coup, tout écrit d'un coup, fait l'impression, puis il y a probablement pas d'autres saisons qui s'en viennent, à moins que ça, ce soit un gros succès. Fait que l'impression, c'est qu'il a essayé de faire une œuvre complète sur ces 18 épisodes. Moi, je préfère avoir l'œuvre complète, mais je suis d'accord avec toi que peut-être que 18 heures en binge-watch sur 3 jours, ça va être impossible.
C'est cool que les auteurs aient ce nouveau médium-là pour expérimenter, puis que, tu sais, ils osent y aller maintenant, là. Ben, là, il y a, tu sais, mettons, The Young Pope qui est, tu sais, c'est, comment il s'appelle dans le réel?
C'est
Si j'ai un blanc, là.
pa Paolo Sorrentino?
Sorrentino, c'est ça. Sorrentino c'est son œuvre, puis c'est lui qui réalise la série en entier, puis c'est comme, tu sais, c'est son projet, c'est son bébé, puis c'est cool que maintenant il y a cette porte-là, puis que les réseaux télé, ils laissent ça ouvert aux auteurs, là. Puis Woody Allen, là, est-ce tout sorti cette série-là, la série de Woody Allen?
Ouais, c'est sorti, puis ça a vraiment été un gros flop,
Hey,
là,
my
mais
God,
ouais,
ok!
sur
J'ai
Amazon,
zéro,
c'est
zéro news
disponible,
de ça, là. Ok. L'avez-vous vu? Non?
Non.
Et celle
C'est ça.
de, je sais pas, celle de Jane Campion, j'entends beaucoup de bien, puis je vous top of the lake, là, en
C'est
ce
ça, ben là, c'est,
moment.
en fait, parce que là, c'est la saison 2 qui était présentée à Cannes, c'est ça que je savais pas trop, en fait, on n'était pas sûr. Puis, certains disaient que c'était comme la meilleure chose présentée à Cannes cette année, là. Donc, il y a eu des très bons commentaires. À part de ça, on a vu plein d'autres films aussi, parce qu'on écoute encore du cinéma, effectivement. Notamment, Olivier, t'as vu un documentaire, je suis vraiment curieux de le voir, en fait, je sais pas si t'en as entendu parler, Rémi, mais c'est un documentaire 100% sur des chats, donc...
Ah, oh, oui, ça a l'air bon, ça. Ben, c'est parce que j'aime les chats, là. En fait, je sais pas si c'est bon, mais j'aime tellement les chats que ça me le veut.
Même sans aimer les chats, je trouve que c'est une proposition le fun. Donc c'est dans les rues de Turquie, c'est ça, Olivier?
Ouais, c'est dans les rues d'Istanbul, en fait. Kedi de Seda Torun, je sais pas comment on dit ça, mais voilà. Donc c'est ça, c'est dans les rues d'Istanbul, la ville qui est complètement infestée par des chats errants, infestée comme si c'était négatif, là, mais on dirait que les habitants, ou du moins le documentaire, te présente les habitants comme vivant assez heureusement en compagnie des chats errants. Puis le documentaire va, c'est ça, s'intéresser à à plusieurs personnages. Puis je dis personnage, ça va être soit il va s'intéresser comme à un chat qui reste autour d'un restaurant puis qui tue la vermine, fait que les propriétaires du restaurant ont comme accepté de le laisser vivre dans le restaurant. Soit ils vont s'intéresser plutôt à des hommes qui se promènent puis nourrissent une troupe de chats qui vit dans tel coin ou quelque chose comme ça. Donc
Puis
c'est
c'est quoi la forme du documentaire? Est-ce qu'il y a des entrevues avec les habitants du
ouais,
village, de la ville? Est-ce que...
c'est des entrevues, puis t'as l'impression que c'est comme 10 petites histoires, 10 ou 11, là, je sais pas le chiffre exact, mais petits documentaires à propos d'un chat ou à propos d'une personne qui vit près des chats, qui sont comme alignés un après l'autre, en fait. Fait que c'est un tout petit film, là, ça dure 80 minutes, puis ça va passer à chaque 10 minutes, ça va changer comme le personnage change de point de vue, tout en gardant comme la ville, comme... comme truc pour les englober, en fait. C'est un peu la critique que j'ai envers ce film-là, dans le sens que ça s'arrête jamais vraiment sur un point. C'est comme le vaguement les chats qui se promènent dans la ville qui est le sujet principal, mais ça s'arrête vraiment jamais sur un sujet, ce qui fait que c'est un documentaire qui est très en surface, on dirait, par rapport à ses intervenants. C'est ça, c'est... Ben, je veux dire, j'ai aimé ça. J'aime bien le film parce que j'aime les chats, puis tu sais, c'est une vidéo de chat de 80 minutes à la fin, puis c'est super cute, c'est super le
Ouais.
fun. Puis il y en a qui sont vraiment drôles. Tu sais, il y a un chat qui demande la bouffe au restaurant, mais il rentre jamais dans les restos, fait qu'il fait juste se mettre devant la porte, puis gratter devant les portes, puis pour avoir de la bouffe, mais il va juste manger des bouffes précises, puis il va dans des restos super fancy, là, genre il va pas dans des petits fast-foods, il va... Il lui prépare une grosse bouffe, c'est super cute. Mais j'avais beaucoup de grosses attentes parce que les critiques étaient vraiment positives, puis parlaient comme d'une dimension spirituelle puis poétique que j'ai comme pas vraiment vu par rapport au film. J'ai trouvé ça vraiment premier niveau en surface par rapport à c'est ça, la relation qu'ont nos animaux puis les chats. Ce qui fait que ça fait un film super cute, mais que tu sais, j'ai pas vu plus que ça. Sauf, si ça vous intéresse, parce que tu sais, vous êtes fan des chats, c'est sûr que le film est vraiment sympathique, puis c'est bien filmé, puis c'est beau. Mais c'est pas un film qui travaille beaucoup son sujet en profondeur, j'ai l'impression. J'ai vraiment trouvé ça en surface, puis la structure, justement, qui saute d'intervenant en intervenant, on dirait que c'est une structure qui a comme été improvisée un peu au hasard, comme ou au montage, là, ce chat-là est intéressant, on va travailler 8 minutes après, mais après, on n'a plus rien à dire, fait qu'on passe au prochain. Tu sais, il y a pas de ligne directrice vraiment par rapport à ça, puis ça m'a un peu déçu pour
Peut-être
ça.
que ce traitement plus minimal permet justement à certains critiques d'y voir, tu sais, quelque chose de plus grand, finalement,
Ouais.
d'interpréter.
Puis, ben, c'est ça, tu sais, on parlait de... J'ai vu des critiques qui parlaient comme la spiritualité du film, puis il y a certaines personnes qui ont justement parlé de leur rapport au chat, comme il y a une personne qui a vécu des événements marquants dans sa vie, puis il les associe au chat, fait que là, il voit comme les chats comme un signe de Dieu, tout ça, mais ça vient tout le temps...
Est-ce que cette personne-là, c'est Catwoman?
Non, malheureusement.
Non, ok.
Bien joué, Paul.
Pas de chauve-souris non plus. Mais... c'est ça vient tout le temps des intervenants. La réalisation du film est pas... C'est bien filmé, puis ils font de quoi intéressant qu'ils utilisent... Tu sais, la caméra est souvent en hauteur de chat, en fait, puis ils suivent les chats dans les ruelles, puis tout ça. Puis ça, c'est le fun, mais c'est pas... Ils vont pas chercher une poésie dans l'image ou quoi que ce soit, plus que de montrer l'état des choses, je trouvais.
Puis moi, je me rappelle, j'avais fait une critique d'un film très similaire, en fait, il y a peut-être un an, c'était à propos une île japonaise, en fait. Puis là, le contexte, c'était que c'est une toute petite île qui vraiment se tournait autour de la pêche. Et puis là, éventuellement, comme il y a eu un exode, tu sais, des petites villes vers les métropoles, ben cette île-là, en fait, il y a eu plein, plein de champs abandonnés. Puis là, bon, il y a quelques irréductibles citoyens sur cette île-là, mais il y a vraiment très peu de gens, puis en fait, les chats sont multipliés, si bien que c'est vraiment comme une île, là, comme recouverte de chats, puis à moins de comme vraiment de se dire qu'il y aurait comme une volonté gouvernementale de dire qu'on élimine les chats, je veux dire, ça fait pas de sens. Donc, c'est vraiment une île où j'imagine c'est un peu la même chose dans un sens, où c'est ça, les chats sont vraiment en liberté, puis... Mais le problème de ce court... Ça, c'était un moyen-métrage, en fait, ce court documentaire-là. Le problème principal, je trouvais, c'était qu'on passait trop de temps avec les gens, en fait, puis finalement, on s'en foutait un peu, puis ce qui était la fascination de ce film-là, en fait, c'était les chats, fait, puis je trouvais qu'on passait finalement très peu de temps dessus, puis j'aurais presque, je pense que j'aurais préféré un film sans dialogue, tu sais, une espèce de juste comme, on voit les chats, puis ils expliquent, tu sais, au lieu de... Tu sais, c'est le show don't tell, là,
Ouais.
mais c'est comme... C'est ça, donc je sais pas si c'est un peu la même chose dans ton cas, je sais pas si ce film-là, t'aurais peut-être...
À la limite, je pense que j'aurais effectivement préféré ça sans dialogue parce que ça aurait quand même été plus radical comme proposition. Je pense que ça aurait été aussi beaucoup plus difficile à réussir, là, parce que là, on dirait que le film remplit son contrat, mais que c'est pas un contrat qui va juste pas chercher très loin. C'est quoi son contrat? Mais c'est ça, les intervenants, c'est intéressant, puis c'est le fun de les entendre parler, mais c'est jamais rien de plus que oh, le chat est cute, le chat est fun, on aime ça l'avoir dans notre coin. Fait que, je veux dire, c'est ça, c'est que ça fait un film qui est cute. Sans plus.
C'est ça, parce que qu'un intervenant te dise tel chat il est cute, t'as pas besoin que quelqu'un te le
C'est
dise,
ça.
tu le montres.
Oh ouais.
Puis en plus, justement, des vidéos de chats, en soi, c'est tellement imprévisible, un chat, c'est tellement le fun, que t'as-tu vraiment besoin. Qu'est-ce que tu vas ajouter, toi, comme commentaire, tu sais?
Mais
Donc.
faut dire que les chats qu'ils vont chercher sont assez improbables, là, parce que justement, c'est des chats errants qui vivent dans une ville, fait qu'ils ont appris leur truc, là, justement le chat qui mange juste de la bouffe fencée, c'est quand même assez
Un
c'est quand
choc
même.
gourmet, là.
Ouais, non, mais c'est super improbable comme truc. Tu sais, il y en a qui vont escalader les édifices pour aller chercher leur ami qui est comme au 8e étage d'un building ou des affaires comme ça. C'est quand même fou, là. Fait que c'est le fun pour l'anecdote, mais c'est ça, ça reste dans l'anecdote, c'est comme ça.
C'est comme la version documentaire du film là, de Secret Life of Pets, là. Tu sais, le film d'animation qui est sorti il y a comme 2 ans,
C'est le film d'animation que personne n'a vu,
là. Je l'ai vu en plus, c'est ma copine qui
t'as
m'a
vu
traîné là.
ça?
Ouais, c'était tellement
What
mauvais, là.
the heck?
On était tellement
Ben oui,
déçus.
ça a l'air mauvais,
Mais,
là.
faut dire que la bande-annonce était très bonne. Puis cette
Ouais.
joke-là apparaît au début du film, tu sais, quand les animaux, tu sais, quand les gens partent, puis ils se mettent à jouer du métal, mettons, c'est un caniche, là, fait qu'il y a comme un.
Ben, genre Toy Story, là.
Ouais,
Story,
genre,
genre.
mais.
C'est Toy
Story
Story,
avec
mais avec
des
des
animaux,
animaux,
là,
là,
comme.
comme maudit, là, c'est
En fait,
comme.
ouais. Mais ça, c'était le début, c'est comme un bon short, puis après ça,
Ouais.
c'est comme ça s'écroule complètement, là. Un peu comme... Ça fait penser à, tu sais, la bande-annonce de Ice Age, là, à l'époque, là, puis la bande-annonce, c'était seulement l'écureuil qui va cacher sa noix.
Tout le monde
C'est
aimait
ça qui a vendu
l'écureuil.
le film, là. Tout le monde était comme « Oh my God, c'est quoi ce film-là? » Puis finalement, tu sais, le Ice Age, c'était comme pas si bon que ça, mettons, là. Mais c'est un peu le même principe, c'est ça. C'est que cette séquence-là était vraiment bonne, là.
Tu sais, on parle qu'on a full remake, tu sais, des remakes, des suites, tu sais, puis on est toujours là-dessus. Puis là, tu te dis, ah, oh, un film original, mais finalement, c'est toutes des formules réutilisées, là. Tu sais, prochainement, il y a le film d'Emoji qui sort, là. Tu sais, genre, le Emoji Movie, là. Puis tu check, puis genre, la bande-annonce, finalement, c'est le film de Lego mêlé avec Wreck-It Ralph. C'est genre deux films qui avaient des idées quand même originales, mais ils ont juste, comme, repris le concept parce que ça a fait full de cash. Puis tu l'appliques à une nouvelle. Fait que tu sais, ok, c'est comme un film original entre guillemets, mais c'est pas un film original, là. Secret Life of Pets, ça a l'air d'être ça là. C'est genre, hey, Toy Story, c'est un succès, ben on va refaire ça mais avec des animaux là. Je sais pas, là,
Ouais.
c'est comme.
Tu meilleur que 4 versus Dogs.
Je
Parce qu'on
pense pas que
devrait,
ce
on devrait faire
film-là,
des
mais...
scénarios, là. Comme
Ah non,
c'est pas
mais...
facile. C'est genre une daube des
Ouais.
années 90.
C'est ça.
Ah, mais honnêtement, là, Secret Life of Pets, c'est un des pires films d'animation que j'ai vu de ma vie, là. C'est vraiment atroce, là. T'sais, sauf pour la bande-annonce, justement. Ben, c'est joke-là, au début de suite. Sinon, Rémi Fraîchette.
Ouais, dis-moi.
À chaque mois, sur point de vue, on met un sondage, en fait, rapide, là, sur la page d'accueil pour savoir un peu c'est quoi les films attendus. Bon, c'est un peu juste une petite curiosité que j'ai de savoir c'est quoi que les gens ont hâte de voir. Puis j'ai été surpris en fait que pour le mois de mai, c'était vraiment Alien Covenant qui était dans le
Ish.
top. C'était vraiment comme le film le plus attendu, alors que moi j'avais pas nécessairement plus hâte à ça qu'à d'autres choses comme mettons Fate of the Furious ou que d'autres films. Et là, il est sorti, on l'a vu. Donc toi et moi, Rémi, on l'a vu ce film-là qui est comme le... Bon, ça dépend comment qu'on compte, mais soit le 8e film de la franchise ou le 6e de la saga principale. Donc Alien Covenant qui est comme une suite directe de Prometheus et qui en même temps est comme un prequel. Tu sais, Prometheus et Alien Covenant forment une espèce de prequel au premier
Ouais.
Alien, au premier film Alien. C'est déjà annoncé que ça fait partie d'une nouvelle trilogie. Donc il y aurait un troisième film qui s'en vient bientôt. Ceci dit, le film a été quand même un gros échec commercial par rapport peut-être aux attentes puis au budget. C'est sûr, dans l'absolu, il a fait quand même pas mal d'argent, mais il franchirait même pas le 100 millions de dollars, ce qui est assez décevant pour un film de cette ampleur.
Mais la fin, c'est que les gens ont vu Prometheus, fait que, tu sais, c'est ça le problème, c'est pour ça que les gens sont pas au rendez-vous.
Ben, il y a un peu de ça. Je me demande aussi à quel point il n'y a pas un film comme Life qui était venu jouer dans la même plate-bande il y a quelques mois, tu sais, qui était vraiment comme. Puis j'ai dit, on avait fait de la critique, là, que c'était comme pas mal un remake du premier Alien aussi. Donc, Alien Covenant, qu'est-ce que c'est, Rémi? Est-ce que c'est un succès après peut-être la déception qui était Prometheus, ou on est encore une fois dans la redite non nécessaire?
Dans la redite non nécessaire. Fin de ma critique, c'est pas mal ça. Hey, non, mais je voulais aimer ça, là, vraiment, là. J'avais tellement envie de au moins avoir du fun. Mais waouh, c'était lourd là comme film, ça a pas de sens là. Il a
C'est
fait
quand même drôle de dire ça,
exactement.
d'avoir du fun, tu sais, avec une franchise de films d'horreur dans l'espace.
Ben, tu sais, il reste que je sais pas, il y a quand même des thrills là dans le premier là, c'est ça là du fun même si c'est de l'horreur, tu sais. Chaque Alien était tellement différent, chaque film avait vraiment une signature complètement différente qu'on aime ou qu'on aime pas, tu sais, même celui de Jeunet, c'est comme c'est pas un bon film mais t'as une esthétique complètement ailleurs, il a essayé quelque chose de différent. Puis ça je respecte beaucoup ça. Puis tu sais, après Prometheus, tu te dis comment tu peux, tu sais, tu peux-tu vraiment descendre plus bas que ça? Puis I guess que c'est pas mal sur le même niveau que Prometheus là, tu sais. J'ai l'impression
Ok.
que Prometheus fait hey, non, je peux pas dire ça. J'allais dire fait plus de sens là, mais c'est comme je sais pas comment les rater. En fait, nous autres on a quitté la salle de cinéma, on était trois. Puis on n'a pas parlé du film. Tu sais, là, c'était comme clair pour les trois que c'est ça qui est ça, il n'y avait rien à dire.
C'est
On a
ça.
quitté en silence, puis c'est comme, bon, ben on va continuer nos vies, je pense. Je pense que c'est ça qui est ça.
Hey, ceci dit, j'ai une question pour toi parce que ça, je l'ai appris il y a pas longtemps. Puis en fait, j'ai écouté ça après avoir vu le film. Mais il y a comme deux scènes qui c'est comme vraiment un prologue au film qui sont diffusées sur YouTube, comme
Ouais.
deux courts-métrages en fait qui sont sur YouTube qui vraiment mènent le film. Il y en a un, c'est bon, il y en a un qui est plus ou moins nécessaire parce que c'est comme un peu repris dans une explication du film qui revient un peu sur la genèse, entre autres, du personnage de David, interprété par Fassbender dans Prometheus, qui revient dans ce film-là. Et il y a une autre scène, en fait, c'est comme une scène de souper, où c'est vraiment, tu sais, l'espèce de scène typique de camaraderie dans l'équipage du vaisseau qui un peu permet d'établir l'ambiance. Celle-là, j'ai vraiment l'impression qu'elle aurait dû être peut-être dans le film, parce que ça te permet de t'accrocher peut-être plus au personnage avant que éventuellement il y en a un ou plusieurs qui meurent dans l'atroce souffrance. Donc, est-ce que tu connaissais ces shorts-là, est-ce que tu les avais vus avant de voir le film?
Moi, j'avais vu celui avec David qui est quasiment meilleur que le film, en fait. C'est ça l'affaire, là. C'est ça le problème. J'aime mieux cette scène-là. J'aime mieux une petite dose qu'avoir un mess total de film comme ça, là. Mais tu sais, là, on peut faire peut-être un petit synopsis, mais en gros, ça se passe ben, en fait, t'as la scène d'ouverture, là, où t'as comme un peu les origines de David, là, qui est avec le personnage de Guy Pearce, qui était dans Prometheus. C'est une scène qui est shootée hyper télé, là. Genre, c'est l'affaire, c'est ultra basic comme scène. Ils veulent être super artsy, là, mais pour vrai, c'est juste cheap, là, comme scène. C'est un peu risible, là. C'est sur les origines de l'homme, mais aussi comment la machine évolue, puis comment la machine est comme une nouvelle espèce. Au niveau quasiment spirituel, c'est super intéressant, mais c'est au niveau du tournage, la mise en scène, j'ai trouvé ça tellement cheap, j'avais hâte que ça finisse, là. Puis après ça, bon, tu tombes dans l'espace, là, c'est super beau. Ridley Scott, il shoot bien, là, on va se le dire, là. Puis là, t'es dans un vaisseau, en fait, qui transporte je sais plus combien d'humains, là. C'est un peu un Romano Fafard, mais avec une cargaison d'humains, là, en hibernation.
Ben en fait, parce que c'est une colonie, c'est contrairement à d'autres films de la saga, là, c'est vraiment une mission qui vise à déplacer comme un grand nombre d'humains vers une nouvelle planète habitable qu'ils ont détectée. Parce
Exact.
qu'on imagine que la Terre, ça va pas bien, etc.
Puis là, ils reçoivent un signal pareil comme dans le premier Alien. Puis là, parce que les personnages sont des totales idiots tout le long du film, ils décident d'y aller. Ils ont comme une cargaison d'humains avec une mission précise. Puis bon, ils se font comme réveiller là parce qu'il y a un glitch dans le vaisseau. Puis t'as James Franco qui meurt. Je vais le dire là direct là. Je suis désolé, mais c'est ça qui est ça, là, c'est au début du film, là. Mais James Franco, il est là 30 secondes dans le film pour mourir. On voit sa tête dans une vitre puis il crève. J'ai aucune idée pourquoi c'est James Franco qui est là. Il y a genre une petite scène de flashback où on le voit, genre, mais sinon, ben, c'est James Franco qui meurt, là. C'est ça qui est ça.
Soit en train d'essayer d'établir une franchise, puis comme le troisième film,
Ben peut-être, mais il...
Je sais pas.
Ben c'est ça je me disais, mais il est là, genre sérieux, s'ils veulent aller de l'avant, le personnage est déjà mort, tu sais. La seule façon, c'est d'être sur Terre avec lui, où il n'y a aucun contact avec les aliens. J'ai aucune idée ce qu'ils veulent faire avec ça parce que il est juste. Il est pas là dans le film. C'est
Bon,
weird, là.
ceci dit, s'il y a une franchise qui nous habitue à ressusciter des personnages, c'est bien Alien.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, pis tu sais, Alien, ils ont. Tu sais, je sais pas si c'est de faire comme dans le premier Alien où t'as John Hurt qui était comme un méga acteur puis ils le font mourir, c'est le premier qui se fait pogner par l'Alien. Spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le premier Alien. Spoiler de genre 40 ans là, quasiment là. Mais James Franco, il est pas placé avant, tu le vois puis il est en train de mourir. C'est tellement weird. Fait que là bref, il y a un bug dans le vaisseau, non? Puis là ils reçoivent un signal qui on se doute est le signal du film d'avant de Prometheus. Puis là ben il décide d'aller enquêter sur une planète. Le capitaine est un peu à saoul, mais ça se conclut jamais trop. Puis là, ils s'en vont sur la planète, puis voilà, les personnages font des mauvaises décisions une après l'autre. Des choix genre, hey, je vais aller pisser, genre, puis là, il part dans son coin, puis là, genre, il arrive quelque chose de mal. Tu sais, c'est vraiment, là, il essaie de... On dirait que Ridley Scott, il essaie de prendre les codes du film d'horreur, puis de les déconstruire, mais finalement... Il réussit jamais vraiment à les déconstruire. Il fait juste comme faire toutes les idioties que les personnages faisaient dans les années 80, où c'était du deuxième degré. Là, il le fait, mais sérieusement, c'est tellement ridicule, là. Le gars qui dit, je vais aller pisser, il pisse même pas, finalement. Il s'en va, genre, fumer une cigarette. Puis là, il y a, genre, des espèces il pile sur une fleur qui diffuse une patente en CGI qui rentre dans son oreille. Puis
Une
là,
espèce de
ben, c'est
poussière, là.
ça qui, genre, qui finalement crée la bébite à l'intérieur de lui. Mais c'est comme, sont tellement épais les personnages là, ça fait pas de sens. Il y a vraiment des moments là, la salle était pleine 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 là, c'était comme une des grosses salles au Banque Scotia, puis c'était full là. Puis il y a des fous rires de la foule, mais à des moments où il fallait pas, mais toute la salle riait là. Il y a
C'est
comme
ça,
un moment où il y a un
parce que c'était trop ridicule un peu les choix des personnages.
Ah, c'est ça. Puis il y a genre même un gars qui arrêtait pas de gueuler dans la salle, il arrêtait pas de gueuler. Oh, come on! Tu sais, genre super fort là. Mais c'était comme, tu sais, c'est comme il y a un bout, en fait, aussi, c'est à la fin de, disons, le premier acte, là, je dirais, là, où il y a un personnage, je dirais pas qui, mais qui vient sauver la troupe un peu avec un flare gun, c'est de quoi je parle, le Paul, là, qui débarque out of nowhere. Mais comme ça, là, ça a été un méga fou rire dans la salle. Genre, c'est tellement ridicule, là, ça fait pas de sens, là. Mais c'est ça, puis, tu sais, un autre problème, c'est que j'ai l'impression que les moments d'horreur dans Prometheus, même si Prometheus est un mess total aussi, les moments d'horreur étaient plus efficaces parce que c'était vraiment viscéral. Là, c'est des personnages qui agissent tellement de façon idiote, puis avec en plus le gore, il est bourré de CGI cheap là. Vraiment, quand tu vois les premiers aliens en CGI
Ouais,
là, c'est...
ben écoute, je vais jouer un peu l'avocat du diable parce que bon, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai apprécié le film là, puis que c'est un bon film, mais faut quand même y reconnaître des qualités dans le sens que tu disais tantôt qu'une force de la saga Alien, c'est que chaque film vraiment a sa personnalité puis son identité autant visuelle que thématique. Puis je pense que c'est encore le cas dans ce film-là parce que on l'a dit tantôt, la scène d'ouverture, c'est vraiment sur le robot joué par Fassbender puis réflexion autour de la création tout ça. Et ce film-là vraiment se positionne comme étant fait du personnage de Michael Fassbender le centre du film. Parce que le nouvel équipage, justement, le nouveau vaisseau, a également un androïde qui est joué par Michael Fassbender. Donc ça donne lieu vraiment à des situations super intéressantes. Et ça, mine de rien, ça en fait quand même un film, tu sais, qui, je pense, qui a sa propre identité dans la franchise. Et sinon, moi j'ai l'impression que Ridley Scott, maintenant dans sa carrière, j'ai pas l'impression que vraiment Ridley Scott, c'est la personne qui va pouvoir te faire un grand film si un mauvais scénario. Je pense que la qualité de ses films dépendra des scénarios qu'il reçoit. Ceci dit, de la manière que je le vois, c'est que lui, il essaie juste d'arranger son film pour arriver à certains moments visuels clés. T'sais, parce qu'on le sait, Ridley Scott, c'est un de ceux qui fait les plus beaux storyboards au monde, là. Puis tu sais, d'ailleurs, son logo pour sa compagnie, c'est une espèce de logo animé, là, un homme qui se transforme en corbeau, là, Scott Free, là. Ben, c'est ça, il est vraiment reconnu, en fait, pour faire des storyboards qui ont pas de bon sens. Puis d'ailleurs, si jamais, à un moment donné, vous êtes curieux, je sais pas si on peut trouver ça sur Internet, mais sinon, sur le DVD de Hannibal, il y a vraiment un segment qui s'est consacré uniquement à ces storyboards, puis on dirait là de la bande dessinée européenne ou des trucs comme ça, c'est vraiment beau. Et dans le film, tu parlais rapidement tantôt, tu sais, de le gars qui va prendre une pause cigarette, puis que là il y a comme la poussière qui se met à comme vivre en fait là, puis rentrer dans son oreille. Ben ces plans-là, pour vrai, c'est parmi les plus efficaces du film, quand t'as comme une espèce de POV de l'intérieur de l'oreille, puis là tu vois juste microscopiquement comme de la poussière qui rentre dans sa peau là. C'est tellement dégueulasse là, puis ça marche tellement bien, je trouve, ce plan-là en particulier. C'est sûr que
Mais c'est ça, c'est des plans séparés, c'est hyper découpé.
ouais.
Mais en même temps, en contrepartie, il y a des plans où on voit qu'ils build vers ces moments-là, mais c'est juste cheap, là. Il y a l'espèce de moment qui semi-poétique, là, où les deux robots, en fait, jouent de la flûte ensemble, là, où là,
Ouais.
tu vois que, tu sais, comme, c'est buildé vers ça, mais c'est super cheap, là. Genre, c'est comme, hey, regardez Fassbender, il joue avec lui-même, ok, comme Eddie Murphy dans Naughty Professor en 96, là. Non, mais c'est comme, c'est genre, il voulait faire, ah, oh, c'est super impressionnant, on a des mouvements de caméra, c'est fluide. Ça a vraiment l'air d'un trip technique, mais vraiment, c'était risible, c'était, le monde était crampé dans la salle, c'est tellement, le dialogue est tellement mal écrit, c'est ultra kitsch, là. Mais en tout
Non,
cas,
c'est ça,
ouais.
ouais.
Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est ça, il y a des petits glimpses à travers qui sont comme, bon, mais finalement, c'est juste comme ces petits moments-là sur lesquels tu peux t'attacher, mais à travers ça, toute l'histoire s'écroule un peu, puis c'est. Parce que ouais, le plan, il est malade, là, tu sais, on va se le dire, c'est effectivement, là. Il shoote bien, là, Ridley Scott, là, ses films sont tout le temps beaux, là.
Non, puis comme c'est la même chose que je disais en fait pour Prometheus, c'est que j'ai l'impression que, tu sais, il y a comme des fois des livres officiels là, format large, là, genre The Art of ou tu sais
Ouais,
les
ouais, ouais.
Making of Prometheus ou Making of Alien Covenant. Ben j'ai l'impression que ce livre-là en fait va être vraiment meilleur que le film là, parce que justement t'as une pleine page, puis si mettons il te montre le vaisseau, tu sais, puis quand t'as la scène mettons du vaisseau qui déploie des espèces d'écrans solaires pour recharger ses batteries, ben tu sais c'est super beau ce moment-là, puis t'as l'impression vraiment de. Tu sais, c'est ça que la science-fiction peut avoir l'air au cinéma, tu sais, puis que c'est ça qui a le plus que jamais un roman. Mais effectivement, le scénario, ben, il tire de la patte parce que justement, les personnages prennent les décisions les. Puis je pense que honnêtement, là, faudrait que je réécoute Prometheus, mais j'ai vraiment pas comme l'énergie puis l'envie, là. Mais j'ai l'impression que les décisions prises ici sont encore pires que dans Prometheus. Tu sais,
Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
ils ont un androïde d'abord qui n'est pas. Tu sais, qui n'est pas vulnérable à, mettons, un manque d'oxygène. Puis là, ils découvrent une nouvelle planète, ils mettent même pas de casque avant d'arriver, tu sais, je veux dire, ils ont même. Puis bon, j'imagine qu'entre-temps, ils ont fait une analyse par des sondes ou tout ça, mais c'est pas montré, fait que t'as juste l'impression que ils débarquent sur une autre planète inconnue, là, comme dans n'importe quelle galaxie, puis ils débarquent là comme des Marines, puis là, tu sais, ça fait. Puis là, ils
Ah,
touchent à
c'est
tout, là,
laid,
genre,
là,
ils
ça n'a pas
brisent
de
le blé,
sens.
ils touchent les fleurs, ils se promènent, puis là. Fait que j'avais plus l'impression d'être dans un. Puis en un moment donné, il y a une espèce de créature qui se promène dans un champ de blé, là. J'avais vraiment des flashbacks de, tu sais, Jurassic Park 2, là. Quand ils sont dans les champs de blé,
Ah.
pis t'as comme plein de marines, pis t'as les raptors les vélociraptors qui les attaquent un à un, là. J'avais vraiment plus l'impression qu'on était dans ce registre de film-là que dans un film de science-fiction, là. Mais en même temps, tu sais, c'est correct si on prend ça pour ce que c'est. Mais c'est ça, c'est dur vraiment d'accrocher au film. Et. Je me dis toute l'espèce de mythologie apportée depuis Prometheus, tu sais, à quel point c'est un plus-value ou c'est ça fait juste alourdir l'ensemble, parce que si tu coupais toutes ces scènes-là puis que t'enlevais 30 minutes au film, tu sais, peut-être que finalement t'aurais une espèce de film de série B plus efficace, un peu comme Life était finalement, tu sais. Tandis que là, c'est ça, j'ai pas l'impression, parce que
Ça
au final, l'Alien, tu sais, le xénomorphe, la créature, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ses origines? Est-ce que ça ajoute quelque chose? Ou le fait que
Ah
dans
bon,
le ou
sérieux là.
le fait que dans le premier Alien, t'as juste une espèce de grosse bibitte dégueulasse, ben t'as pas besoin d'expliquer, là, tu sais, c'est comme c'est dans le titre, c'est un Alien, tu sais, ça vient d'ailleurs, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, j'ai peur, tu sais. Mais bon.
Ouais, c'est ça. Mais sérieux, mais genre je vais juste dire Mr. Scott, là, prenez ce soundbite-là, puis mettez-le sur le Twitter de Ridley Scott. Je sais pas comment ça marche, Twitter, là. Mr. Scott, put him in a suit. Put the fucking in a suit. Genre, arrêtez de faire du CGI. C'est simple. Genre, il y avait un gars dans le costume, dans l'original, pour que. C'est quoi le problème? Genre, sérieux, là, j'ai vraiment décroché, là, le CGI m'a fait chier, là. Genre, au moins, là, un moment d'horreur tangible, là, tu peux sentir qu'il y a comme une connexion entre la bébite, là. Là, je le voyais juste le coller, là, sur le. En tout cas, c'est peut-être juste moi, là, mais Ça m'a vraiment, vraiment agacé, là.
Il y avait de quoi tu parles le fun dans le premier Alien, en fait, que les vaisseaux humains étaient comme tout clean, puis comme les Alien étaient comme tout dégueulasses, puis il y avait comme une physicalité qui est comme perdue dans CGI. On dirait que les Alien en CGI, j'ai pas vu le nouveau, mais j'ai vu Prometheus, genre, il est aussi clean que tout le reste, fait que ça perd comme de cet aspect, la bibitte organique qui vient scraper le truc de science-fiction tout propre, là, tu sais, c'est aussi le robot, ben, le vaisseau d'Alien 1, genre, il y a comme l'ordinateur qui s'appelle Mother, qui vient répondre à tout cet esprit-là de comme la naissance clean versus la naissance de l'alien, qui est super organique, mais je trouve qu'en CGI, ça, c'est complètement perdu. En tout cas, ça l'était dans Prometheus, fait que j'imagine ça l'est là aussi.
Ah, puis il y a une
Ouais.
espèce de il y a une espèce de cliffhanger aussi à la fin du film là, que je peux pas dire, pas un cliffhanger mais un genre de twist ending là, mais comme que pendant 15 minutes genre ils te font croire de quoi mais que c'est évidemment pas ça là. Genre je peux pas vraiment le dire là, mais tu sais c'est un genre de moment de deux bonhommes se battent puis tu sais pas trop qui va gagner puis là genre ils te font tenir en haleine pendant 15 minutes mais t'es comme of course là que ça a pas de sens là, c'est tellement con là. Genre c'est vraiment là c'est des tropes qui ont été faites là à répétition là.
Ben, justement, c'est drôle parce que la fin de Life, il y a exactement la même chose qui se passe où
Ah.
t'as une espèce de. T'as comme un. J'essaie de rester vague, là, mais il y a comme deux solutions possibles. Puis pendant 15 minutes, il essaie de comme garder le flou sur quelle solution s'est passée dans le scénario. Puis c'est exactement la même chose, en fait. Donc c'est vraiment drôle de voir les deux films un après l'autre. Puis tu te rends compte que peut-être que le rip-off non officiel d'Alien est peut-être meilleur que le rip-off
Ouais.
officiel d'Alien. Parce que dans le fond, Covenant, c'est quasiment un remake du premier film aussi. Tu sais, c'est que. Et encore une fois, il y a un peu les mêmes questionnements. Il y a un. Puis, bon, je vais pas trop non plus dévoiler de punch, mais ça, il y a une scène aussi qui se passe, tu sais, où soudainement, t'as comme. T'as une nouvelle. Ben, t'as comme le vaisseau qui. Il y a une porte ouverte vers l'espace, puis là, ça donne des. T'sais, lieu à des confrontations un peu avec la gravité puis t'sais, l'effet de suction là. Mais ça c'est encore repris un peu t'sais, des autres films de la saga puis fait que le film en soi apporte quand même très peu de choses mais en le centrant sur vraiment le personnage de Michael Fassbender je trouve quand même que c'est une t'sais, c'est que sur papier c'est une
Oh,
bonne
c'est
idée je trouve
intéressant.
mais que le résultat est pas vraiment à la hauteur là.
Exact, il y a des trucs sur papier qui doivent être très intéressants, tu sais, quand tu réfléchis le concept et le fun, mais c'est pas bien exécuté, là. Mais une affaire que j'ai aimé, là, que je pourrais dire, c'est que je trouve ça cool qu'il ait casté Danny McBride, genre, dans un film comme ça. Danny McBride qui a fait disons, sa carrière beaucoup autour des films de Seth Rogen, là, tu sais, c'était le méchant dans This is the End, puis, c'est comme il est vraiment un acteur comique, mais là il commence à se diriger plus vers l'horreur. Puis c'est Danny McBride, il vient d'être. En fait, on en a parlé il y a deux trois podcasts, mais le nouveau Halloween, c'est McBride qui l'écrit, qui le coécrit. Fait qu'il est en train de faire sa place dans le monde de l'horreur. Puis je le trouve bien intéressant comme comédien. Il a l'air vraiment d'un Américain un peu nono là, de fin fond du sud
Ouais.
là. Mais il est
Ben
vraiment
avec son chapeau de cowboy en paille là,
crapaud de
puis
cowboy, tu sais, puis mais c'est vraiment un gars très intelligent qui, je trouve qu'il choisit, bon, disons que le projet est pas malade là, mais il choisit quand même bien ses projets, puis je pense qu'il est vraiment surveillé pour la suite des choses parce que là, il va rentrer dans le clan, c'est ça, le clan, comment il s'appelle dans le producteur, Bloom là, Blumhouse là,
Blumhouse, ouais.
un peu dans ce clan là, fait que c'est cool, c'est un comédien à surveiller, puis c'était le fun de le voir dans un autre contexte qu'un film de Seth Rogen à la con là.
Le prochain Halloween, c'est à cause qu'il a mis avec le Real. Je veux dire, c'est pas le gars qui a fait Uranus qui va réaliser ça, il me semble, ou
Ah, ok, ça se peut, ouais.
genre
C'est
David
pas
Gordon
qui a...
Green, je pense, qui a fait plein de petits films
Ah,
indépendants le fun,
oui.
puis qu'après il a fait des comédies américaines vraiment nazes, puis là il retourne à faire des films indépendants le fun. Puis ça va être comme vraiment curieux de le voir faire Halloween, mais ils avaient travaillé ensemble les deux là, fait que le prochain Halloween, je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça va donner en fait, parce que c'est vraiment une prime intéressante qui est derrière.
Ouais, t'enlèves ça des mains de Rob Zombie, c'est une bonne affaire, là.
Puis
Calice.
juste pour revenir à Alien Covenant là, tu sais ce qui est dommage c'est que tu sais la science-fiction c'est quand même un genre assez établi que comme tu sais c'est quand ça veut dire ça fait tellement longtemps que ça existe en littérature puis au cinéma c'est qu'il y a des choses qu'on devrait plus avoir à refaire puis à redire. Tu sais, comme une des principales choses qu'ils font dans les récits de science-fiction, c'est que si mettons t'as un équipage tu sais, qui a une grosse mission à faire, ben ils vont dire ben on prend juste des personnes qui ont pas de famille. Comme ça, on évite qu'ils prennent des décisions à cause de liens familiaux. Tu sais, puis là il y a tellement de décisions dans ce film-là que c'est à cause que c'est la femme de telle personne qui est en danger ou tel truc, qui le fausse jugement. C'est que moi, mais tu sais, on avait déjà réglé cette question-là en science fiction il y a genre plus de 100 ans, là, tu sais. Fait que pourquoi tu utilises encore ces ficelles-là? Puis c'est de même, plus c'est un exemple, mais c'est ça, c'est comme ça, comme tout le long du film. Puis c'est assez dommage. Alors que, justement, tu sais, une des choses vraiment intéressantes de ce genre de film-là, c'est quand t'as des dilemmes moraux du type, là, telle personne, on pense qu'elle est infectée, fait qu'on va la mettre en quarantaine, mais là, on va pas s'en occuper. Ben, il y a ça rapidement dans le film, il y a comme une scène de ça. C'est toujours, je trouve, des moments vraiment intenses, puis vraiment cool. Puis là, on se dit, ah, qu'est-ce que moi je ferais dans ce cas-là? Mais là, le personnage met quelqu'un en quarantaine, puis rapidement, elle va rouvrir la porte pour essayer de comme tuer l'alien avec un fusil. T'es comme, come on, genre, pourquoi laisse-la en quarantaine, puis c'était ça ta décision
Ouais, c'est
initiale, tu
ça.
sais? Fait
C'est
qu'en
ça,
tout cas,
ils sont tellement cons, là. En tout cas,
ouais.
ouais, c'est ça. En tout cas, on va venir là-dessus. En tout
C'est ça, c'est pas un, c'est une grosse déception, mais en même temps, c'est ça, Prometheus nous avait peut-être déjà mis la puce à l'oreille. C'est drôle parce que t'as Mario qui est full fan de ce film-là, je sais pas pourquoi. Il a fait un gros article là, sur un peu la mythologie de Prometheus. Mais bon. Sinon, on a vu, ben, j'ai vu également le gros film de super-héros Wonder Woman,
Ah
vous voyez pas au podcast, mais je fais des signes de bras qui s'entrecroisent.
tu pouvais pas t'empêcher hein, d'aller le voir.
Ah non, mais je suis vraiment curieux d'aller le voir, moi aussi.
Ouais, moi aussi, en fait.
Au dernier podcast, je disais justement à quel point je commençais à être fatigué des films de super-héros, mais je pense que le buzz critique, en fait, m'a donné le goût d'y aller.
Tellement.
Et une autre chose, en fait, une autre chose qui a vraiment qui a scellé mon choix d'y aller, c'est que le film est présenté en 70 mm à Montréal, les amis.
Nice.
Au cinéma Banque Scotia. Et donc, c'est du 70 mm qui est donc 2D, qui est sans pause publicitaire, sans rien avant, sans timeplay, parce que c'est un projecteur loué, puis c'est trop compliqué. Un peu comme pour Kong Skull Island, il y avait la même chose plus tôt cette année. C'est tellement un plaisir. Là, moi, je pense que c'est un devoir des cinéphiles en ce moment d'essayer d'encourager les films en 70 mm si on veut qu'il y en ait plus. Puis bon, je sais qu'il y a plein de raisons qu'on peut ne pas faire ça parce qu'on veut, mettons, ne pas encourager une chaîne comme Cineplex, etc.
Ah, puis ça
Mais
reste Kong puis Wonder Woman, c'est pas
c'est ça, c'est peut-être pas les plus grands films cinéphiles, mais écoute, moi tant qu'à choisir, j'aime mieux voir du 70 mm que n'importe quel autre format. Donc ça déjà, c'est très bien pour ça. Ceci dit, bon, Wonder Woman, c'est la direction photographique, y a rien d'hallucinant là. Puis la direction artistique, t'sais, ça fait la job, mais c'est vraiment pas là qu'il y a l'intérêt. Wonder Woman, puis je mets aussi Get Out dans ce panier-là. C'est probablement les deux films les plus importants de l'année pour Hollywood. Et je suis extrêmement heureux que ces deux films-là ont eu des grands succès commerciaux. Parce que là, on vient d'apprendre que Wonder Woman fait 100 millions dans le box-office nord-américain lors du premier week-end. C'est le plus gros box-office réalisé par une femme. Pourquoi c'est si important, en fait, c'est parce que ce serait moins important s'il y avait beaucoup de films réalisés par des femmes, beaucoup de blockbusters réalisés par des gens, des minorités, par notamment des Afro-Américains, tout ça. Mais c'est pas le cas. Donc, tant que Hollywood va être une industrie patriarcale, blanche, tu sais, à 99%, ben, toutes ces exceptions-là, il faut quand même les souligner. Comme un Moonlight, même s'il y avait des réserves, ben, je suis content qu'il ait gagné l'Oscar du meilleur film, je suis content que les gens en parlent. Donc, ne serait-ce que pour le symbole de ça, je suis vraiment content que Wonder Woman, ça soit un succès. Et en plus, le film est quand même bien foutu. Et le film vraiment se revendique complètement féminin, tu sais. C'est vraiment l'histoire de, c'est ça, c'est, en gros, le pitch, là. Ben, Wonder Woman avait déjà été introduite dans l'univers de DC dans le film Batman contre Superman. Elle apparaît à la fin un peu pour sauver pour aider les hommes. Et là, dans le fond, le film, c'est comme un gros flashback, parce que c'est vraiment son origin story. Et puis là, déjà là, il y a quelque chose qui marche pas, parce que tu te dis, tu sais, elle est comme née au début du 20e siècle. Fait que là, ta voix comme une jeune actrice enfant qui l'interprète. Puis là, rapidement, dans le fond, ça fait partie d'une tribu d'Amazones sur une île cachée. Il y a aucun homme là. C'est que des femmes qui combattent pour, tu sais, garder la paix sur le monde, etc. Puis ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de guerre, donc, mais ils s'entraînent quand même. Puis là, d'ailleurs, le début du film, c'est peut-être les meilleurs moments du film. Où tu vois, c'est ça, des femmes tous plus belles les unes que les autres, en armure dorée, qui font des acrobaties hallucinantes à chevaux, puis à cheval, puis avec des arcs, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment le fun. On sent un peu comme dans comme dans 3 ou ces films comme ça, là, plein de CGI. Mais parce que c'est une femme, c'est donc mais le fun, tu sais, puis c'est ça, puis Get Out, c'est la même chose, c'est que c'est pas parce que je suis blanc que je suis pas concerné ou que je suis pas capable de m'identifier, tu sais, puis un film comme Get Out ou comme Wonder Woman le font très bien, en fait, c'est forcer l'identification, puis se dire, ah, tu sais, c'est comme ça pour eux, tu sais, puis ça peut paraître super simpliste, mais de le voir dans un gros blockbuster comme ça, c'est vraiment le fun, puis tu sais, je sais pas pour vous si vous aviez vu Get Out en salle, mais tu sais, les gens, il y avait vraiment une énergie là qui était là. Tu sais, quand vraiment le noir se met à massacrer des blancs, là. Tu sais, c'est aussi simpliste que ça, mais ça marche, pis t'as du goût d'applaudir, parce que pour une fois,
c'est ça. Le monde applaudissait carrément, là. C'était, moi, Get Out, ça a été l'expérience Fantasia, pas à Fantasia, là, mais c'était le monde qui gueulait en malade, genre.
Pis Wonder Woman, c'est le cas, c'est avec encore ça, pis c'est tellement important qu'il y en ait au moins un film comme ça. Donc c'est ça, donc le schéma, le synopsis du film là rapidement c'est ça, au début ils sont sur l'île et là il va y avoir comme un avion qui va apparaître au loin parce qu'il y a une espèce de bulle de pouvoir magique qui cache l'île un peu, mais là rapidement il va y avoir un avion de c'est Chris Pine en fait qui va sombrer à l'eau et là le personnage de Gal Gadot, Diana, va aller sauver donc cet homme-là dans l'eau, mais là il y a des bateaux ennemis qui le poursuivent, donc là, tu sais, dans le fond, la présence de l'île est dévoilée au reste du monde, et on est en première guerre mondiale, et là, dans le fond, les Amazones vont tuer tous les ennemis, mais ils vont garder Chris Pine prisonnier, parce que, dans le fond, il a aussi aidé Gal Gadot lors de l'attaque, et là, dans le fond, ils vont débattre, est-ce qu'on tue l'homme, est-ce qu'on devrait, tu sais, laisser la vie sauve, etc., et là, rapidement, en fait, lui explique qu'il y a la guerre en ce moment, puis là, eux sont pas au courant, sont comme déconnectés du monde. Puis donc, il explique que, ah, faut absolument faire quelque chose parce que moi, dans le fond, j'ai découvert un livre qu'il faut que j'aille rapporter à mes supérieurs. Vous me devez laisser partir. Puis là, les Amazones ne veulent pas. Mais là, Gal Gadot, qui est comme la fille de la reine des Amazones, puis qui est devenue donc... en fait, Diana, qui est devenue Gal Gadot, donc qui est devenue une belle adulte, tu sais, dans la trentaine, peut-être 30 ans, je sais pas. Elle va donc se rebeller contre les ordres et décider de s'enfuir avec Chris Pine. Pour découvrir le monde et pour un peu essayer... Elle, en fond, elle est convaincue que c'est le roi de la guerre qui est au centre de la Première Guerre mondiale, dans le fond. Parce que ça, tu sais, les phrases que Chris Pine veut utiliser pour décrire la guerre, ça va comme un peu recouper certains mythes qui ont cours depuis des centaines d'années sur les Amazones. Donc là, sa mère s'en rend compte, mais elle dit « Ok, c'est beau, de toute façon, je peux pas te garder ici indéfiniment. Je sais que tu vas en faire qu'à ta tête parce que tu es une femme forte, etc. » Donc, elle va découvrir le monde. Et, tu sais, c'est la première moitié du film, en fait, c'est super cool, parce que là, t'as comme Diana, qui est comme Wonder Woman, tu sais, en armure dorée, qui va comme, tu sais, justement avec Chris Pine, c'est comme le clash non seulement des sexes, mais des cultures, des générations. Elles vont aller à Londres du début du siècle, où, tu sais, c'est très gris, c'est très pollué, c'est très pauvre, parce qu'on est dans la pleine guerre. Et donc, ça sera beaucoup, la comédie, en fait, va venir de là. Et Gadot, en fait, c'est une interprète vraiment très, très bonne. Tu sais, elle a évidemment le physique de l'emploi. Et elle est vraiment dans son visage, une espèce de naïveté contagieuse qui fait vraiment plaisir, en fait, dans un monde, tu sais, de plus en plus cynique. Donc, je pense que, un peu comme je disais que Drax dans Guardians of the Galaxy 2 était vraiment un personnage qui faisait du bien de nos jours, ben Wonder Woman, c'est un peu ça. C'est peut-être le baume qu'on avait besoin, tu sais, dans un monde où les hommes, tu sais, mettons Trump, pour ne nommer que lui, tu sais, n'ont de cesse que de mettre de la grisaille sur notre quotidien, tu sais, à tous les jours. Ben là, d'avoir une Wonder Woman comme ça, forte, affirmée, et pas sexualisée, pas objectifiée, évidemment, elle a un charme certain. Puis elle va parfois l'utiliser à son avantage, mais tu sais, ce n'est pas l'espèce de personnage comme la Catwoman d'Halle Berry qui était vraiment sexualisée. Là, c'est vraiment, tu sais, on fait une femme forte. Puis une des probablement la meilleure séquence du film, en fait, arrive comme pas longtemps après ça, où bon, là, ils vont comme c'est un peu le schéma classique où ils vont s'entourer de quelques amis pour faire une mission secrète pour aller il y a tel méchant qu'ils doivent punir là, puis arrêter. J'en parle pas trop dans les détails pour pas trop dévoiler. Mais il y a une scène où ils sont dans une espèce de guerre de tranchées. Puis là, ils appellent ça le No Man's Land. Puis là, ça fait comme, mettons, plus qu'un an que les gens essayent, ils sont au front, puis ils peuvent pas vraiment avancer parce que là, t'as des Allemands qui ont des mitraillettes, etc. Et Là, tu sais, t'as Chris Pine qui essaie d'expliquer rapidement pourquoi, parce que là, t'as comme une espèce de femme avec sa fille qui est comme, aidez-moi, j'ai pas de bouffe, tout ça. Puis là, Wonder Woman, t'sais, elle veut s'arrêter pour les aider. Puis là, il dit, ouais, mais tu peux pas t'arrêter pour aider chacun, tu sais. On est là, on a une mission, puis cette mission-là va avoir un impact sur le, tu sais, ça va mettre fin à la guerre. Puis on n'a pas le temps, en fait, puis l'énergie pour aider tous les citoyens, tu sais, qui sont dans le pétrin. Puis c'est là que Wonder Woman regarde, ben moi je vais le faire. Puis là, tu sais, en slow motion, là, comme elle saute par-dessus la tranchée, c'est la seule qui est comme en or, en rouge, en bleu, tu sais, symbole des États-Unis, vraiment, là. Puis là, comme, tu sais, là, avec son regard, puis son make-up, puis tout ça, puis là, soudainement, tout le monde se met à tirer sur elle, mais là, avec ses bracelets, tu sais, elle évite les balles, puis elle les fait, tu sais, elle les fait rebondir, puis elle a son bouclier aussi, puis elle avance dans ce monde d'hommes, tu sais, assoiffée de sang meurtri, sans morale. Puis elle, c'est comme la seule femme comme ça qui peut vaincre les citoyens. Puis ça marche tellement bien, t'as le goût d'applaudir, puis évidemment, t'as tout le second degré où tu dis, c'est sûr qu'il y a plein d'hommes qui vont attaquer ce film-là, puis qui vont dire, ah, ben nous, on n'en veut pas des super-héros féminins, pis des trucs comme ça, puis il y a déjà eu plein d'articles tout plus sexistes les uns que les autres, mais t'as quasiment l'impression que Wonder Woman, en ce moment, est en train justement d'éviter toutes les trolls, puis toutes les jokes sexistes, puis t'sais, de montrer aux hommes comment on peut faire du cinéma également. Puis le symbole est tellement en adéquation forte avec la scène qui se passe en ce moment que tu peux juste comme applaudir un tel moment, puis te dire que peut-être qu'enfin, en 2017, on peut se permettre de t'sais, donner les rênes des plus grandes franchises à des femmes également, puis on espère que c'est le premier d'une longue série. Donc juste pour ça vraiment là, tu sais, pour cette séquence-là, puis pour ce que le film représente, ça vaut la peine, je pense, de voir le film. Ensuite, est-ce que le film c'est un énième film d'origine de super-héros conventionnel qui a pour fond, tu sais, une guerre, cette fois-ci la première plutôt que la deuxième, mais qui est au fond tout aussi cliché que tous les autres exemples, tu sais, qui ressemble à s'y méprendre à une version féminine du premier Captain America? Évidemment que oui, le film est quand même assez très cliché, et puis c'est pas non plus la meilleure, tu sais, mise en scène, tu sais, les séquences d'action sont pas particulièrement mémorables, mais c'est vraiment le symbole qui fait que, comme un Get Out, tu sais, Get Out, c'est pas non plus le film le plus original au monde, ou tu sais, c'est pas le premier film d'horreur comme ça qui a un message social, mais parce que, tu sais, c'est réalisé par un noir, parce que c'est vraiment bien foutu, ben t'as pas le choix de dire, d'applaudir. Puis dans un monde parallèle où, c'est ça, il y aurait des dizaines de Get Out à chaque année, puis des dizaines de Wonder Woman, et évidemment, ces films-là seraient moins remarquables, mais puisque c'est pas le cas, ben ça vaut la peine, je pense, d'encourager le film. Et
T'as
puis, tu
l'air
sais,
passionnant, maudit, en tout cas, Paul.
ben, honnêtement, c'est tellement le fun de voir, tu sais, scène après scène, de voir une femme, là, se moquer des hommes comme ça. Puis, tu sais, comme, justement, elle évolue dans une guerre où les mondes ont pas de pouvoir, ben là, t'as vraiment l'impression que c'est les hommes impuissants face à cette femme qui, grâce à ses pouvoirs magiques, a le dessus sur tous les hommes, tu sais. Puis c'est sûr que c'est simple, c'est sûr que c'est le symbole, il est gros comme le bras, mais c'est tellement plaisant, genre, de voir une femme réussir là où tous les hommes échouent, là. Donc, non, ça, c'est super bien. Puis même au niveau de la diversité, t'es un personnage, en fait, qui est un de leurs alliés. Je pense que le personnage s'appelle Sadie, je me rappelle plus trop, ou c'est le nom de l'acteur, j'ai oublié. Mais donc, tu sais, c'est un jeune Marocain, tu sais, qui est avec eux, qui est un mercenaire, là, qui fait des jobs comme ça pendant la guerre. Et à un moment donné, tu sais, il y a une conversation avec Wonder Woman, tu sais, puis il lui dit, moi, j'ai jamais voulu, tu sais, faire partie de cette guerre-là. Tu sais, moi, mon rêve, c'est d'être tracteur, tu sais, puis depuis que je suis jeune, c'est ça que je rêve de faire, mais j'avais pas la bonne couleur de la peau, tu sais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce que j'ai pu, là, tu sais. Puis plus loin aussi, il y a un personnage d'un Indien, chef. Tu sais, qui va leur fournir des munitions, puis qui va les aider, puis tu sais, lui, c'est quoi son histoire? Ben, il dit, tu sais, moi, dans le fond, cette guerre-là, tu sais, j'ai aucun côté, tu sais, vraiment, je suis pas fidèle à l'un plus qu'à l'autre, tu sais, je fournis des munitions aux deux, puis je vends mes services aux deux camps, mais parce que moi, mon peuple, en fait, était décimé par les Blancs, tu sais, donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça, puis c'est tout plein de personnages comme ça, puis de phrases qui, en fait, sont juste là pour vraiment souligner le manque criant de diversité au cinéma. C'est sûr que c'est ça. Encore une fois, c'est dans ta face, c'est très facile à voir, mais c'est tellement bien fait là que tu peux juste, c'est ça, te lever puis applaudir, puis d'être content que ce film existe. Et dans la guerre, peut-être dans le portrait des films de super-héros, ben c'est vraiment comme facilement le meilleur film du nouveau DC Universe là.
C'est celui qui a le moins été marketé là, dans un sens là. Puis tous les autres films, on a entendu parler beaucoup trop pendant 6 mois. Puis celui-là, on dirait que, tu sais, oui, il y avait des affiches puis des trailers, mais il me semble qu'il y a vraiment eu moins de buzz que les autres avant. C'est un peu étrange.
Je serais curieux en fait de voir les chiffres parce que est-ce que c'est juste parce qu'on est peut-être des hommes qu'on n'a pas été rejoints? C'est peut-être que les pubs ont été dans des canaux de diffusion qu'on n'est peut-être pas habitué de parcourir aussi, donc
Mais l'impression que c'est un peu dommage, mais en fait, Wonder Woman, c'est quand même une héros qui est comme moins star power qu'un Batman, qu'un Superman, en fait.
Ah, ça c'est sûr, là.
Fait que j'ai l'impression qu'ils essayaient de moins de le vendre, puis ils se sont comme fait un peu prendre dans leur jeu, parce que c'était un film qui était peut-être plus un risque aussi. C'est dommage, mais aussi le fait que ce soit la première fois qu'une femme a un aussi gros budget ou quelque chose comme ça, le studio le voyait un peu comme un risque. Fait qu'on dirait qu'ils ont essayé de moins le vendre, puis finalement il marche super bien, tandis que Batman versus Superman, tu sais, les producteurs parlaient de ce film-là, puis ils étaient sûrs pour eux, c'était un safe bet, c'est un safe bet, puis finalement c'est un film qui s'est pété la gueule sur toute la ligne, tu sais. Ça montre que les studios devraient peut-être prendre plus de risques aussi, là, mais je comprends pourquoi ils le font pas, là, mais en tout cas.
Ouais. Ben, espérons que les studios puissent prendre des bonnes leçons de ce
Oh,
film-là,
ouais,
parce que,
clairement.
ouais, pis tu sais, Get Out, là, je veux dire, c'est encore plus vrai dans le cas de Get Out, parce qu'on parle d'un budget de comme 5 millions de dollars, là, mais ça reste à voir, là, parce que, tu sais, les studios hollywoodiens, c'est pas les structures les plus malléables et les plus progressistes qui
Écoute,
existent.
il y a une tonne d'articles qui a été écrit sur Wonder Woman, sur le fait que si ce film-là était un échec, ben plus jamais une femme aurait ce genre de budget-là, puis des affaires comme ça, puis c'est vraiment désolant. Parce que tu sais, t'as plein de réalisateurs hommes qui ont fait des films de super-héros qui se sont pété la gueule, mais qui ont tout le temps une nouvelle chance, tandis que ça, c'est vu comme un
C'est
gros
ça.
risque juste parce que c'est réalisé par une femme, tu sais, puis parce que c'est une femme qui est le personnage principal. Fait
Ouais,
que,
puis en plus, on parle d'un gros risque, mais tu sais, Patty Jenkins, c'est elle qui a quand même réalisé Monster avec
ouais,
Charlize
clairement.
Theron. Tu sais, c'est une femme d'expérience, mais c'est juste que dans ce thème Hollywood actuel, tu sais, un homme aurait réalisé Monster puis gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour Charlize Theron, tout ça. Il y aurait eu plein d'offres par la suite, tu sais,
Oh, ouais.
ça. Tandis que là, c'est une femme, faut qu'elle se batte pour chaque projet, puis c'est toujours comme ça. C'est la même chose pour la réalisatrice qui a fait, je rappelle plus son nom, mais elle qui a fait The Invitation, qui avait fait Girl Fight
Ouais.
également. Tu sais, c'est comme c'est des gens qui se battent pour chaque projet, tu sais. Puis à part là, mettons Sofia Coppola puis Catherine Bigelow, parce que ils ont des affiliations fortes et directes avec des cinéastes masculins reconnus. À part cela, toutes les autres réalisatrices de femmes, réalisatrices féminines doivent se battre pour chaque projet. Donc effectivement, si on peut commencer à donner plus la chance, tu sais, c'est pas normal que c'est ça que un Colin Trevorrow fait un Safety Not Guaranteed puis se fait offrir les clés d'Hollywood pour faire Jurassic World.
Ouais.
Ben c'est pas normal qu'il n'y ait pas l'équivalent pour les femmes, tu sais. Donc
Ouais.
écoute, est-ce que ce film-là peut ouvrir la voie? C'est tout le bien qu'on lui souhaite, effectivement. Mais est-ce que ça va faire mon top 10? Non, évidemment non. Est-ce que c'est un grand film de super-héros non plus? C'est un bon divertissement qui profite de son contexte de production, ça c'est sûr. Donc, Wonder Woman, il est toujours à l'affiche. J'espère que les gens vont aller le voir. Ah, puis ça me faisait penser aussi à, je sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup Magic Mike, surtout le deuxième Magic Mike.
Hey, je l'ai pas vu. Il vient de rentrer sur Netflix, là. Fait, faut
Ah,
vraiment que je le voie.
faut vraiment se taper ça. Puis toi, tu l'avais-tu vu, Rémi, ou
Non, j'ai même pas vu le premier, en fait.
Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est des films
Faudrait, là,
comme,
faudrait.
parce que tu sais, ça me fait tellement rire tous les cinéphiles là, masculins, mettons là, cinéphiles, peut-être plus des gens qui sont du grand public ou qui ont moins de jugement ou tout ça, mais qui sont comme ah, oh, moi je regarderai jamais Magic Mike par principe, ou ça me rend mal à l'aise d'aimer ce film-là. Mais tu sais, c'est comme ça te montre à quel point il y a vraiment une tranche de la population qui sont comme pas à l'aise avec leur goût, leur sexualité, ou tu sais, parce que ah, oh, mais ouais, mais Magic Mike c'est genre des gars en chest tout le long. Ouais, mais il y a combien de films là, genre quote unquote normaux là, qui ont plein de femmes dénudées juste pour
Ouais,
être
ouais.
là, juste pour être du sex appeal, tu sais. On change jamais là, quand dans un film d'action t'as la belle héroïne ou la Bond girl, ou des trucs comme ça qui sont comme à moitié dénudées, puis évidemment c'est des actrices de comme 25-30 ans qui sont quasiment castées pour leur look plus que pour leur qualité de jeu, tu sais. Ben ça dérange jamais personne, tu sais, puis les femmes sont toujours obligées de comme se la boucler, puis tu sais, de prendre ça pour acquis, puis dire remets pas en question le fait qu'on caste, tu sais, je sais pas moi, Megan Fox dans Transformers, tu sais, tu penses vraiment que c'est pour son jeu d'actrice. Mais là, pour une fois qu'on a la même chose pour l'équivalent, tu sais, pour les femmes, tu sais, d'un Magic Mike, ben là, les hommes sont comme outrés, puis, mais Magic Mike, c'est vraiment le fun à voir, tu sais, puis c'est pas juste parce qu'il y a des hommes en chess, mais tu sais, aussi, c'est des bons films. Mais entre autres, si tu dis, ah ben c'est ça aussi que les femmes vivent, tu sais, de voir la constante objectification de leur sexe au cinéma, ben ça fait du bien, tu sais, de voir l'inverse de temps en temps. Donc ouais, si vous voulez vous faire. Puis d'ailleurs aussi, il y a eu un gros scandale que je vais peut-être aborder rapidement aux États-Unis, parce que là, t'as la chaîne Alamo qui ont dit qu'elle allait avoir un screening, qu'elle allait faire des screenings Woman Only de Wonder Woman. Et là, il y a des gens qui ont capoté, qui font des pétitions, qui appellent au boycott. Mais tu sais, pourquoi pas, dans le fond, tu sais, parce que en plus, ça permettrait peut-être d'avoir des screenings où t'as pas la chance qu'il y ait un gars qui fasse comme nice ass ou genre des. Tu sais, des commentaires
Genre.
dégradants pendant le film. Fait que pourquoi pas, tu sais, pourquoi ce serait un crime de faire ça, tandis que. Non, c'est ça. Donc moi j'applaudis ça. Moi, je serais down qu'il y ait à Montréal des screenings tu sais, de femmes seulement pour Wonder Woman. Puis j'espère que ce film-là ça va avoir un gros succès dans le temps. J'espère que les hommes aussi vont aller le voir le film, puis ils ne vont pas le snobber comme certains ont peut-être pu snobber un Magic Mike. Donc voilà, gros
J'espère que ça va créer
plaidoyer pour la diversité.
ça va créer un précédent en fait à Hollywood.
Ben, j'espère, tu sais, parce que bon, je dis pas non plus qu'il faut aller à une parité, parce que ça c'est un autre débat, tu sais, mais qu'il y ait juste un peu plus de projets faits par des femmes, qu'il y ait plus de chances en fait. Tu sais, je pense que ça en prend là. Donc voilà, ça fait le tour de notre point de vue cette semaine. Merci Olivier d'avoir été des nôtres. On va se quitter sur la bande-annonce de. Est-ce que tu l'as vu, Olivier, le film d'horreur It Comes at Night?
Non, mais ça a l'air vraiment bien,
Non.
en fait. Les échos sont tellement positifs, là, j'ai vraiment hâte de le voir.
C'est ça, on parle peut-être du grand film d'horreur de l'année pour l'instant, avec peut-être Get Out à côté. Donc, on va se quitter sur la bande-annonce de ce film-là, It Comes at Night, de Trey Edwards Schultz, qui prend l'affiche vendredi prochain. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andriot et j'étais avec mon collègue.
Rémi Fréchette et Olivier.
Olivier Bouchard, au revoir.
bye-bye.
Bye.
I just want to talk. And I want honest answers. Do you have any idea what's going on out there? I'm gonna try and help you and your family.
I want to thank you again for letting us stay here.
Run through a few things. When we go out during the day, we like to stick to groups just for safety. The red door. It's the only way in and out of the house. It stays closed and locked all the time. I have the keys. It's the only set. Most important thing.
What's he see?
It's okay. Just go inside.
We never go out at night.
The door was already open when you got there.
Yeah.
Then who opened it?
I think they're sick.
Put your mask on. Nobody's sick here.
Can't trust anyone but family.
You don't get it.
How old are you, Travis?
If they're sick.
If you're lying to me, I will kill you.